je vais d'abord présenter ces dames. On va commencer avec Sylvie Aimée, qui est juste à côté de moi, qui est professeure en sciences de l'information à l'Université Jean Moulin de Lyon, qui a fait 4 livres, aujourd'hui 4 recueils de nouvelles éditions actuelles SF, notamment l'Opéra de Chaya, qui est tout beau, tout neuf, qui vient de sortir, Parouflage, Espace Insécable, Le Miroir aux Éperlettes, et il y a de la vie extraterrestre dedans. Donc on va pouvoir en discuter. Juste à ses côtés, il y a Nelsa qui est astrophysicienne à l'Université de Liège, FNRS, c'est ça?
Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire, FNRS?
Fondationnel de la recherche scientifique.
D'accord.
Comme le CNRS, sauf que c'est plus national. On va garder le N quand même.
D'accord. Tu viens de sortir.
La logique, c'est un petit peu science-fiction quand même.
Qui vient de sortir Voyager dans l'espace aux éditions CNRS. En 2013, j'ai noté aussi les couleurs de l'univers, et tout un tas d'autres choses pour pouvoir en parler. À ses côtés, Sylvie Denis, auteur et traductrice, notamment La saison des singes, Félix le futur, pour les plus jeunes, Pèlerinage, un recueil de Noël, Le peuple du souffle, tout un tas de choses, avec aussi des petites vies extraterrestres dedans. On va pouvoir en discuter. Et puis, le garçon de la table, parmi les intervenants, Ayordal, le dernier s'appelle Bastard, Alors, Sylvie, est-ce que quand tu écoutes des scientifiques comme ça, ça te permet, ça te fait imaginer des choses? Enfin, des choses, des questions.
Oui, parce que cette affaire des eaux planètes, c'était avant que des scientifiques disent on est capable d'observer des exoplanètes. Est-ce qu'on pourrait y aller? Est-ce qu'on pourrait y vivre? Est-ce qu'on pourrait rencontrer, discuter avec les gens qui seraient là-bas? C'est toujours un point de vue très anthropomorphique. Alors c'est vrai que quand on est auteur, on est un petit peu obligé d'adopter ce point de vue parce que parler d'extraterrestres qui n'ont absolument rien à voir avec des humains, c'est difficile d'imaginer ce qui pourrait leur arriver, ce qui les intéresse, ce qu'ils ont dans la tête, surtout s'ils n'ont pas de tête. Et on a quand même envie de parler de rencontres. Mais ça peut être très intéressant aussi d'essayer d'imaginer ce que c'est qu'une forme de vie qui n'a rien à voir avec ce dont vous êtes en train de parler. Et ça amène d'ailleurs à s'interroger sur la définition de ce qu'est la vie. Je ne sais pas exactement quelle est la définition actuelle, mais on a tendance à parler de vie. Si j'ai bien suivi, la vie est quelque chose qui a une volonté de s'étendre, de se reproduire. Il y a déjà plein d'implicites là-dedans. Il y a plein de choses qu'on peut interroger. Il me semble qu'on peut aussi imaginer, enfin moi j'essaie de faire en tout cas, des formes de conscience qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle la vie, qui ne sont pas venues, qui ne sont pas sexuées, qui se développent ou ne se développent pas d'ailleurs, ou existent sur des principes tout à fait différents.
Alors, il y a une réaction puis après il y a...
Alors, j'ai des réactions de deux côtés, pas de bonheur. Deux réactions. Ok, alors je vais commencer par la réaction quand même. C'est vrai que au niveau des astronomes, par exemple, justement en cherchant des biomarqueurs, on se pose très fort la question de savoir bon, comment est-ce qu'on définit la vie et qu'est-ce qu'on va aller chercher. Parce que finalement, bon, si on a il y a un des types de planètes qui est possible, c'est une planète océan. Vous imaginez une planète océan avec un ensemble de civilisations de dauphins qui ne communiquent pas avec l'extérieur, qui ne construisent pas des grandes antennes. Bon, c'est une vie très intéressante, mais qu'on ne va pas détecter avec des programmes type SETI. Les programmes type SETI, c'est vraiment destiné à essayer de trouver de la vie avec laquelle on peut communiquer. Donc, des jumeaux, mais on est parti. Enfin, je veux dire, depuis quand même un petit temps, côté scientifique, on essaie d'aller plus loin. Alors maintenant, on se pose la question, comment faire pour détecter ce genre de trucs?
construit cette vie non humaine qu'on trouve dans les dorons.
J'étais parti de la planète qui possède des saisons. Des maisons dans les arbres, et une vie dans les arbres, et des dans les arbres, et des bestioles, et des fleurs partout, parce que j'aime bien inventer ce genre de choses. D'autant plus que les bestioles en question ne sont pas tout à fait exactement ce qu'on pourrait, parce que ce sont des arbres. Il faut bien un bouquin. J'aurais mieux revenir sur la question de la rencontre, justement. Parce que c'est aussi quelque chose dont on discute parmi les astronomes, notamment. En fait, quand on a. Enfin, je ne sais pas, je suppose qu'on est en contact avec tout problème, le premier message qu'on se récupère, c'est Hitler qui dit bonjour au 36 appels-là. Et c'est une question qui est venue sur le tapis. Septembre, on a envoyé un message codé, alors bien codé, hein. Il y a des trucs avec des mots premiers, enfin, en tout cas, c'est sûr que si nous répondons, ils sont intelligents, parce que franchement, déjà, ils étaient rien, ils comprenaient rien au message, mais bon, mais en tout cas, ce message qu'on a voulu envoyer avec une énorme antenne radio qui se trouve à Puerto Rico, il y a eu de l'opposition dans la communauté scientifique, il y en a qui ont dit, il ne faut pas l'envoyer ce message, et la raison était que vous l'envoyez, vous dites qu'on est là. Il y a des mecs qui vont être débarqués et qui vont tous éculer, quoi. Enfin bon, donc en gros, c'était surtout être le plus discret possible. Et cette opposition, bon, à cette époque-là, bon, il y avait quand même un prix Nobel, hein, qui, à l'époque, on disait, et récemment, on s'est reposé la même question. Et cette fois-là, c'est Stephen Hawking qui est monté au créneau en disant qu'il ne faut surtout pas envoyer ce genre de message. Bon, malgré tout, ça s'est fait. Mais bon, voilà. La question de la rencontre est aussi présente dans tous ces trucs liés à cette idée. Et la question de se signaler, puisque c'est ici, de capter des émissions qui viennent d'ailleurs, mais se pose alors la question, si les autres font comme nous, bah, écoutez, mais comme on ne voit jamais rien, forcément, si on fait tous la même chose, on n'arrivera jamais à discuter, donc il faut à un moment envoyer des messages. Et évidemment, le problème, c'est qu'on reste à ce moment-là dans quelque chose d'assez anthropomorphique, mais se pose la question, qu'est-ce qu'on fait si jamais.
C'est extrêmement rigolo ce que tu racontes parce qu'il y a eu dans les années 40, à la fin des années 40, le Sénat américain s'est posé beaucoup de questions sur les extraterrestres. Un des auteurs que vous connaissez, peut-être tous, s'appelle André Norton, a travaillé pour le Sénat américain de façon à pouvoir naturaliser américain les extraterrestres au cas où ils débarquent. Vous voyez, on en était pas là.
Non, mais il y a la question qui est depuis le 19e où la pluralité des mondes est même devenue très très importante. On pensait vraiment qu'il pouvait y avoir d'autres mondes, c'était enfin acquis. Au Vatican, ça cogite. Et la semaine passée, le pape a déclaré qu'il était d'accord de baptiser des Martiens. La question n'est toujours pas close à ce niveau-là, mais c'est toujours effectivement une question qui se pose.
Pas des enfants d'homosexuels, par contre. Hein. De
elle a une vision de la situation qui est complètement différente et qui va avoir des conséquences pour leur futur retrouvailles.
C'est pas de question, bon, j'en profite, j'adore le crachoir, c'est absolument génial. Ce qui est très très rigolo, c'est toujours cette situation. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on reconnaître en quelque chose d'autre, en quelqu'un d'autre, en la capacité de pouvoir dialoguer avec nous, d'avoir une interaction avec nous ou pas. Donc on va être obligé, on va être amené à faire des choix. Le premier extraterrestre qu'on va rencontrer, on va le créer nous. Ce sont les biologistes, les généticiens. Informaticien. terrible, c'est parce que du coup, il a remplacé la Terre au centre de l'univers. C'est un recul en arrière titanique. Une dernière question, on laisse la seconde.
Sur le micro pour dire les extraterrestres qui ne veulent pas communiquer avec les terriens, il y a aussi ces nations, par exemple, qui décident de mettre la planète Terre en quarantaine parce que si elle risque de contaminer l'univers entier par sa manière de penser. Il y a un traitement en lien.
Sur cette note joyeuse et optimiste, je vous propose de conclure.